France Inter.
Ce soir, nous allons remonter vers les sources, tantôt connues, tantôt beaucoup moins connues. Vous l'entendrez, d'un genre qui, quand on y pense, n'a jamais cessé de faire l'actualité, le métal. Et ça a commencé par un bel orage, je m'en souviens, comme si c'était hier.
Thank you.
Comment pouviez-vous ne pas avoir la mâchoire pendante et les yeux exorbités quand vous entendiez ça pour la première fois de votre vie à l'âge de 11 ans ? Celui que j'avais quand mon grand frère a rapporté à la maison en import anglais, hein, au carton bien plus épais que les éditions françaises, le premier album de Black Sabbath, qui venait de sortir au début de l'année 1970. La pochette, déjà, avait quelque chose de fascinant. Une femme vêtue d'une cape noire, au visage blême, à l'expression hagarde, plantée au bord d'un décor crépusculaire, un sombre étang au bord d'un manoir abandonné. Le nom s'inscrivait sur la pochette, Black Sabbath, Sabbat noir. Qui était-il ? D'où venait-il ? À quoi ressemblait-il ? Impossible d'en avoir la moindre idée en ce temps-là, les visages des musiciens restaient souvent invisibles. Quand j'ouvrais cette pochette, qui donc était double, et dont la vision m'impressionnait, il y avait sur un fond noir uniforme une croix renversée. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais c'est drôle, le plus impressionnant pour moi, je me le rappelle, c'était la rondelle du vinyle qui tournait sur la platine. Un motif en spirale noir et blanc, à la Vasarely, si vous voulez, qui créait un effet d'optique, le sigle de la marque de disque Vertigo comme Vertige. Je le fixais comme hypnotisé pendant que j'écoutais le premier titre de l'album signé Black Sabbath, un titre qui s'appelait lui aussi Black Sabbath, celui que vous venez d'entendre. Alors le début, vous l'avez entendu, c'est comme un film, le son d'un clocher perdu dans le lointain, un puissant coup de tonnerre et la pluie qui se met à tomber mollement, puis de façon de plus en plus drue. Alors on peut tout imaginer, je ne sais pas, quelqu'un s'est perdu près de l'étang de la pochette, la sorcière qui est plantée là va l'entraîner dans ce manoir maléfique et ça va être atroce. Inutile de vous dire que là où j'habitais à l'âge de 11 ans, je n'avais jamais entendu parler de hard rock et encore moins de heavy metal. Je connaissais les Beatles, les Stones, Bob Dylan, mais enfin ça paraissait extrêmement lointain. Et mon décor sonore, c'était plutôt Georges Brassens et à la télévision, Les Compagnons de la Chanson et Sacha Distel. Alors vous imaginez la violence du contraste. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, le heavy metal, qu'on appelle depuis longtemps maintenant metal tout court, fait l'objet d'une exposition qui s'annonce très complète, très fouillée et qui se tient à la Philharmonie de Paris. Je viens d'en recevoir le très beau catalogue, c'est une exposition qui s'appelle Diabolus in Musica et on voit tout de suite que c'est un travail méticuleux et extrêmement complet qui aborde tous les aspects du phénomène, un phénomène depuis longtemps mondial. Les sources musicales, sociales aussi, les affiches, les pochettes de disques, les costumes, les accessoires, les instruments bien sûr, une pléiade de guitare. Et il y a une partie assez fascinante aussi sur l'influence du métal, sur le graphisme, la peinture et le cinéma. Ça commence par une présentation aussi claire qu'approfondie, très bien écrite et traduite par la grande spécialiste du genre, la sociologue Dina Weinstein, qui enseigne à l'université DePaul, c'est à Chicago. Et elle a écrit, enfin il semblerait que ce soit la première thèse sur le sujet. Elle en a fait un livre qui est paru aux États-Unis au début des années 90, qui s'appelle Heavy Metal, A Cultural Sociology. Heavy Metal, une sociologie culturel, dont il existe une version actualisée qui est parue en 2009, Heavy Metal, The Music and Its Culture. Heavy Metal, la musique et sa culture. Un livre que, hélas, aucun éditeur français n'a pris le risque de faire traduire. On est toujours étonné, enfin, moi en particulier, de constater d'une part l'importance primordiale de la musique populaire en France et singulièrement du métal, qui est à la source d'un des festivals les plus courus et les mieux organisés au monde, le fameux Hellfest, où d'ailleurs France Inter sera présent en juin prochain. Et puis d'autre part, rapporter à cette popularité le faible poids, en termes de vente, des livres consacrés à la musique qui touchent, pour employer un langage commercial, un public de niche. En tout cas, j'ai parcouru avec beaucoup de curiosité et d'intérêt le texte d'introduction donc au catalogue de l'exposition de la Philharmonie de Paris, signé par Dina Weinstein, qui s'appelle « Metal, une épopée providentielle ». C'est très intéressant, elle cite un livre que j'avais lu dans mes années étudiantes, signé par le philosophe et critique littéraire russe Mikhail Bakhtin, qui s'appelait « L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance ». Un livre qui m'avait passionné et dans lequel Bakhtin mettait en avant les pratiques collectives de la transgression, le carnaval en particulier. Ce que Dina Weinstein décrit très bien, je la cite, comme des tentatives rituelles visant à renverser les piétés et solennités de la vie quotidienne. Pratiques rituelles dans lesquelles elle voit, et c'est assez convaincant, la source des grandes fêtes liées au métal. Elle écrit aussi une phrase qui m'a fait sourire, je la cite, Il n'y a pas de bureau de l'ONU ou de papauté du métal permettant de définir ou d'établir avec autorité que telle musique fait partie du métal ou non. Et même s'il existait un tel organisme officiel, quel pouvoir aurait-il de faire appliquer ces décisions ? Eh oui, évidemment, c'est parfaitement dit. Et ça me rassure qu'une des plus grandes spécialistes du genre l'écrive, parce que je suis loin d'être ce qu'on appelle un metalhead. J'aime pas trop le terme métalleux, je trouve ça un peu désobligeant. Enfin, ça surprendra personne que je dise ça. Et il m'est arrivé plus d'une fois, à chaque fois que j'en ai parlé ou que j'en ai diffusé, du métal, qu'un passionné surgisse et me reprenne sur tel ou tel choix ou commentaire. Bon, c'est rare que ça arrive. En général, les gens sont très sympas et très bienveillants. Mais enfin, ça arrive. Alors ce soir, je voudrais vous entraîner vers quelques enregistrements préhistoriques, précédant et annonçant le métal, dans lesquels j'entends, je ne suis pas le seul, des sources pour moi évidentes du genre. Alors j'ai délibérément laissé de côté les sources que tout le monde ou presque connaît, les Deep Purple, Led Zeppelin ou encore, je ne sais pas, les Stooges ou MC5 à Détroit aux États-Unis, pour me concentrer voilà sur des sources plus mystérieuses. Par exemple, je suis surpris, enfin ça n'a rien de mystérieux d'ailleurs, que le catalogue de la Philharmonie ne cite pas le trio Cream, créé en 66 en Angleterre par le batteur Ginger Baker avec le bassiste et chanteur Jack Bruce. Et il y avait aussi évidemment un certain Eric Clapton dans Cream. Cette chanson signée par le trio Cream donc s'appelle Tales of Brave Ulysses et elle remonte à l'année 1967.
Leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Take her with you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell. And you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
Paris Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Hey!
Ah, ça date pas d'hier. Evil, c'est le titre de la chanson. C'était signé en 1971 par un groupe nord-américain du nom de Cactus, hein, comme Cactus, que certains, enfin beaucoup même, je l'espère, n'ont pas oublié. Le chanteur de Cactus, Rusty Day, venait de Détroit. 10 ans plus tard, il a failli remplacer Bon Scott, mort brutalement en 1980, comme beaucoup le savent, au sein du groupe AC/DC. Alors, Cactus n'existait plus depuis longtemps, mais je me rappelle très bien mes années de collège. C'est un groupe qui paraissait alors aussi important que Deep Purple ou Led Zeppelin. Sa rythmique était déjà légendaire. Le batteur Karma and a Peace, hein, c'est comme ça qu'on dit, j'ai vérifié, et le bassiste Tim Bogert avaient fait leur début au sein d'un groupe new-yorkais du nom de Vanilla Fudge, c'était à la fin des années 60. Et très tôt, dès l'année 1969, le guitariste anglais Jeff Beck avait remarqué leur étonnante alliance de puissance et de swing. Et d'ailleurs, ce serait suivi d'effet puisque quelques années plus tard, eh bien, Jeff Beck allait former avec eux un trio, le célèbre trio Beck, Bogert and Apice, qui a enthousiasmé les amateurs du monde entier, en particulier en France. Entre-temps, eh bien, ces musiciens, les deux derniers, donc, ont créé Cactus avec le chanteur Rusty Day, ainsi qu'un excellent guitariste de Détroit, Jim McCarthy. Cactus, comme Cream, avait, c'est évident, pour source, le blues électrique, et comme chez Cream, comme chez Led Zeppelin, il y avait aussi dans le son de Cactus une puissance, une intensité et une lourdeur qu'on peut, enfin bon, c'est mon avis, assimiler à ce qu'on appelait encore le heavy metal. Alors, je sais, un des critères qu'on utilise souvent, qu'on met en avant pour distinguer hard rock et heavy metal, c'est de dire que le premier est encore très proche de ses racines blues électriques et que l'autre, bien, n'a pas ses racines blues. En gros, si vous voulez, ce serait Led Zeppelin d'un côté et Black Sabbath de l'autre. Mais c'est pas si simple, parce que chez Black Sabbath aussi, au début, mais comme chez Led Zeppelin, il y avait en tout cas dans le premier album que le groupe a publié en 70, la présence du blues qui était encore très marquée. Juste avant, alors vous avez entendu une curiosité, c'était un groupe de Détroit, complètement oublié, enfin sauf de certains, enfin rare j'imagine, qui s'appelait Frigid Pink, oui, qui avait eu un tube absolument improbable en 1970, en reprenant, façon hard rock naissant, un standard bien connu de folk blues, hein, House of the Rising Sun, popularisé dans les années 60 par les Anglais des Animals, bien sûr, et bien sûr chez nous c'était Le Pénitencier, hein, par Johnny Hallyday. Puis après, vous avez entendu Mississippi Queen, c'est un titre de 70 également, signé par le groupe new-yorkais Mountain, qui a beaucoup, beaucoup compté durant cette période de naissance du heavy metal, au temps où l'on commençait évidemment aussi à parler de hard rock et où l'on aurait été bien en peine de distinguer entre les deux. Alors, soyons francs, d'ailleurs, on s'en foutait pas mal de ces distinctions. Il y a un lien entre Mountain et Cream, c'est le bassiste de Mountain, Felix Pappalardi, c'est un musicien de formation classique qui a joué de l'alto, qu'on avait chargé de superviser l'enregistrement au studio Atlantic à New York de 2 albums du trio Cream qui s'étaient sabordés en pleine gloire fin 1968. Orphelin de Cream, dont la musique avait ouvert pour lui de nouvelles perspectives, Pappalardi avait créé son propre groupe avec un jeune guitariste virtuose de Long Island à New York, Leslie West. Dans le but, hein, pour résumer vite, de reprendre les choses là où Cream les avait trop vite abandonnées. Alors, je vous ai fait entendre Cactus avec la rythmique swingante de Tim Bogert et Karma and a Peace, une rythmique proche du jazz, hein, parfois. Eh bien, voici d'autres exemples qui vous feront sentir que le métal est, si j'ose dire, parfois élastique, enfin parfois funky, si vous préférez. C'était bien sûr le cas de Jimi Hendrix, que certains considèrent comme un des précurseurs, involontaires bien sûr, du métal. Eh bien, voici un exemple, le trio au sein duquel s'est révélé un musicien, lui aussi, basé à New York, le guitariste Joe Walsh. Joe Walsh a rejoint par la suite les Eagles, alors évidemment on est loin du métal, cependant il s'était révélé à la fin des années 60 au sein d'un trio du nom de James Gang qui a publié son premier enregistrement Year Album en 1969. Walsh avait 21 ans et c'était aussi le cas de l'excellent batteur de James Gang, Jim Fox. Alors je vous invite d'ailleurs à explorer la discographie de James Gang, c'est peut-être un des meilleurs groupes américains du début des années 70. La musique se tient à un équilibre extrêmement heureux, extrêmement rare aussi, entre musique noire et blanche, et c'est vraiment, enfin vous écoutez les albums de James Gang, c'est très sous-estimé, c'est remarquable. Et vous allez l'entendre dans ce titre signé James Gang, qui porte bien son nom, Funk No. 48, eh bien il y a un mélange très très heureux de metal et de funk. Autre curiosité, tendez l'oreille juste après, ce sera un titre instrumental signé par un groupe de Brooklyn qui s'appelait Dust, hein, comme poussière, et qui a publié deux albums seulement, le premier en 71 et le second en 72. Il avait pour particularité ce Dust d'avoir été formé par des lycéens mineurs, hein, à 18 ans, on n'était pas majeur en ce temps-là, et ils avaient pu enregistrer leurs albums, mais leurs parents avaient refusé de les laisser partir en tournée. C'est pour ça que voilà, ils n'ont pas pu décoller. Et Dust a la particularité d'avoir révélé deux musiciens extrêmement connus dans le milieu. Le bassiste Kenny Aronson, très demandé en studio, et notamment accompagné Brian Setzer des Stray Cats ou encore John Jett. Et puis il a aussi été le bassiste de tournée de Bob Dylan, hein, Kenny Aronson. Quant au batteur de Dust, Mark Bell, eh bien il n'est autre que le futur Marky Ramone, le seul survivant des Ramones. C'est lui qui avait remplacé le batteur Tommy en 1978. Tout de suite avant Dust, James Gang en 69 dans Funk No. 48 pour un Very Good Trip spécial sur France Inter consacré à certaines des sources occultes et oubliées du métal. Yeah! Hard Rain Fallen, un titre signé par un groupe de Brooklyn, encore un, qui s'appelait Sir Lord Baltimore. C'est vraiment une obscurité extraite du premier album de ce groupe, groupe qui n'en a fait que deux, un album intitulé Kingdom Come, sorti en 1970. On a presque l'impression à un moment dans ce titre que c'est Eddie Van Halen qui joue de la guitare, mais pas du tout. Hein. Un groupe qui avait pour particularité d'avoir été formé par un très jeune batteur, John Garner. Il n'avait que 18 ans quand l'album est paru, et c'était aussi le chanteur du groupe. C'est rare, un chanteur-batteur dans le hard rock ou dans le metal, je n'en connais pas personnellement d'autres exemples. Le guitariste très jeune aussi s'appelait Louis Dambra. Alors ils avaient choisi ce drôle de nom, Sir Lord Baltimore, d'après un personnage qu'on croisait dans le western humoristique Butch Cassidy and the Sundance Kid. Butch Cassidy et le Kid en français, avec Paul Newman et Robert Redford, grand succès à l'époque. En tout cas, pour revenir à la musique, ces quatre gamins avaient enregistré leur premier album au studio new-yorkais de Electric Lady, hein, ceux qui avaient fait construire Jimi Hendrix, et cet enregistrement a eu lieu sous la supervision de l'ingénieur du son Eddie Kramer, un nom légendaire. C'était le fils d'opposants politiques sud-africains réfugiés en Angleterre, et c'est lui qui, à New York, a enregistré tous les albums de Jimi Hendrix et également tous ceux de Led Zeppelin, hormis le premier. Il paraît que les membres de Pink Floyd se trouvaient au studio Electric Lady quand les musiciens de Sir Lord Baltimore enregistraient leur album, et que ceux-ci, les Anglais, auraient été impressionnés par ce qu'ils ont entendu. Alors voici à présent une curiosité, alors sans doute la plus obscure et la plus pittoresque de cette soirée, un groupe du nom de Flower Traveling Band, dont le chanteur était un surprenant japonais du nom de Akira Yamanaka, dit Joe Yamanaka. Alors une histoire étonnante. Ce Yamanaka était l'enfant d'un couple mixte, une mère japonaise, dont l'activité professionnelle était la prostitution dans une maison close. Le garçon n'avait jamais connu son père, qui était, sans doute, pensait la mère, un soldat des États-Unis d'origine cubaine ou bien jamaïcaine. Le garçon avait été élevé dans un orphelinat et il avait pratiqué la boxe. Il avait aussi été acteur avant de se lancer dans la musique. Cet Akira, enfin Joe, avait été remarqué par un autre surprenant japonais un peu plus âgé, un certain Yuya Uchida, un chanteur qui avait fait la première partie, figurez-vous, des Beatles en 66 lors de leur passage au Japon. Il était même devenu ami avec John Lennon. Uchida avait été extrêmement impressionné par l'émergence du rock psychédélique américain, et en particulier, qui ne l'a pas été, par Jimi Hendrix. Et donc, il avait décidé de monter, un peu à la façon, si vous voulez, d'un boy band avant la lettre, un groupe japonais dans ce style. Et c'est comme ça qu'est né le groupe qui est devenu Flower Traveling Band, et qui, d'après ce que j'ai compris, a vite pris son autonomie et sa liberté. Il y a une photo qui circule, c'est la seule que j'ai vue en noir et blanc, où on voit les cinq garçons donc de Flower Traveling Band totalement à poil, tout maigre, avec leurs grands cheveux, chevauchant des Harley Davidson dans un quelconque désert. Voilà. Leur premier album, Satori, est sorti en 71, et en voici un extrait. We'll be right back.
Very Good Trip, sur France Inter, Mishka Assayas.
Thank you.
entendre un titre enregistré voici un demi-siècle déjà, en 1974, un instrumental de 6 minutes, froid et bouillonnant comme le mercure, signé par le groupe anglais King Crimson. Il s'appelle Red, Red comme rouge, comme l'album auquel il a donné son nom, sorti donc à la fin de l'année 74, et on peut le considérer, enfin en tout cas moi je le considère, comme un des actes de naissance du métal contemporain, en tout cas d'un certain métal couplé aux ambiances froides et répétitives de la musique dite industrielle. Au verso de la pochette de l'album Red, on distinguait l'aiguille du vu-mètre de la console d'enregistrement fixée dans le rouge, ce qui bien sûr indique une saturation du signal, et c'est en principe à proscrire. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je voulais vous rappeler que j'ai consacré les émissions de lundi, mardi et mercredi hier au groupe Nirvana et à Kurt Cobain, et ces trois émissions, comme celles que vous venez d'entendre, sont bien sûr disponibles en podcast sur le site de France Inter. Il me reste à remercier très chaleureusement Stéphane Ronxin, que je crois j'ai surpris avec ces quelques sons préhistoriques du hard rock et du heavy metal. Merci également à Vincent Godard à la technique, merci également à Guillaume Cohener comme un Romain Couturier. Tout de suite après les informations, vous retrouverez bien sûr Laurent Goumard et son côté club. Ce soir, il recevra Peter qui sera live. Il y aura également Anna Miette ainsi que Pierrot.